toi quelle joie au Seigneur que de te louer parmi les nations. Quelle joie au Seigneur que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi lumière pour les nations. Et bien voilà, nous continuons sur notre lancée. Après un message intitulé « Ministère et caractère », suivi d'un message « Ministère et éthique », voilà maintenant un message, un partage sur le thème « Ministère et équilibre ». Pourquoi équilibre ? Eh bien, parce qu'il y a une loi spirituelle et physique aussi qu'il nous faut comprendre pour éviter de tomber dans les pièges classiques que le diable met sur notre route. Et nous avons vu dans le cours précédent certains de ces pièges qu'il nous faut éviter, sinon cela a des conséquences néfastes. Alors, dans ce monde, il y a le trop chaud, il y a le trop froid, et puis de toute façon, les deux nous incommodent. Il y a le trop salé et le pas assez salé. Le Seigneur a dit que nous sommes le sel de la terre. Et voyez-vous, il y a certains chrétiens, ils ne sont pas assez salés, on peut dire. Et de ce fait, ils ne communiquent pas l'amour, la vie de Christ, comme le Seigneur voudrait qu'il communique aux gens qui les entourent. Mais il y a aussi ceux qui sont trop salés. Vous savez, ceux qui parlent continuellement par versets bibliques. Et ils en font trop. Et si bien qu'au bout d'un moment, les gens n'en peuvent plus. Et ils ont envie vraiment de rejeter le message plutôt que d'ouvrir leurs oreilles pour en entendre plus, parce que ses frères et sœurs sont trop salés. Donc nous sommes appelés à trouver un équilibre, parce que vous savez, dans le monde spirituel, il en est comme la nourriture physique. Si nous souffrons continuellement de carences par rapport aux choses que nous mangeons, eh bien nous allons au bout d'un moment tomber malades. Et il en est de même avec les enseignements, les messages, les lectures que nous avons et que nous recevons, eh bien, si elles ne sont pas équilibrées, elles vont produire en nous des personnes, des chrétiens déséquilibrés, et au bout d'un moment, nous allons tomber et être spirituellement malades. La Bible dit en effet, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Donc, les paroles qui viennent de la bouche du Seigneur, sa parole a été donné pour faire en sorte que nous soyons spirituellement en bonne santé, si je peux dire. Et pour cela, nous devons l'interpréter d'une manière équilibrée. Beaucoup de gens parfois sont choqués de ce mot interprété, ils diront non, la parole de Dieu, ça ne s'interprète pas. Mais la Bible elle-même nous dit de réfléchir sur les choses pour en comprendre le sens et d'interpréter à la lumière du Saint-Esprit, ce que Dieu nous dit, de peur justement de ne pas bien comprendre ce qu'il nous dit. Et lorsque nous ne comprenons pas correctement ce que Dieu nous a dit, eh bien, cela va créer justement un déséquilibre dans notre vie. Et la parole de Dieu qui nous a été donnée pour nous bénir, pour notre santé spirituelle, va se retourner contre nous et va devenir une occasion de chute. Et je l'ai cité à plusieurs reprises, nous voyons cela dans l'exemple de la tentation au désert, où le diable n'est pas venu tenter Jésus-Christ, j'ai l'habitude de dire, avec le manuel du parfait petit sataniste, mais il est venu le tenter avec des versets bibliques. Qu'avaient ces versets bibliques ? Eh bien, ils étaient sortis de contexte, ils étaient interprétés d'une manière déséquilibrée, et de ce fait, leur sens était faussé, leur sens était changé. Et donc, tout enseignement, aussi bon soit-il à la base, lorsqu'il devient déséquilibré, il devient dans sa pratique, on peut le dire, une fausseté. Tiens, ça me rappelle un jour où je prêchais sur la prospérité, parce que je crois, mes amis, que Dieu veut nous faire prospérer, n'est-ce pas ? Mais nous avons vu dans le cours précédent qu'il y a prospérité et prospérité. Et un jour que je prêchais sur ce sujet dans une église, le pasteur a cru bon de passer derrière moi et il a déclaré au micro: donc vous avez compris ce que le frère a enseigné, maintenant vous pouvez tous demander au Seigneur toutes les villas et les voitures que vous voulez. Et moi j'étais là assis sur l'estrade Et j'étais en train de me dire, mais c'est pas du tout ce que j'ai prêché. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Alors qu'est-ce qui se passait? Cet homme bien intentionné, et souvent nous sommes bien intentionnés, n'est-ce pas? Il reprenait mon message et le poussait à l'extrême. Et dans sa bouche, mon message basé sur une vérité, Dieu nous veut du bien, Dieu veut nous faire prospérer dans notre vie et sur le chemin de notre destinée, devenait une fausseté. Cette vérité était poussée à l'extrême. Et on se rend compte justement dans les réveils que souvent ce sont les mêmes vérités qui ont permis au réveil de voir le jour, parce que la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira », donc de nouvelles vérités et révélations montent à la surface, les hommes placent leur foi dans ces vérités, et hop, il s'ensuit un réveil ou un renouveau. Et au bout de quelques temps, certains prennent ces vérités et les poussent tellement à l'extrême qu'elles deviennent des occasions de chute, là où elles ont été données pour bénir, elles deviennent poussées à l'extrême, un instrument de malédiction qui ouvre une porte à des esprits mauvais qui font justement cesser les réveils. Waouh ! Donc vous voyez l'importance de comprendre ce principe de l'équilibre, et à plus forte raison si nous voulons servir Dieu, si nous enseignons les autres, nous sommes responsables, il y a une responsabilité par rapport à la nourriture spirituelle que nous leur donnons pour engendrer des hommes et des femmes équilibrés. Parce que souvent, nous nous rendons compte que beaucoup de chrétiens, excusez-moi, mais ne sont pas si équilibrés que ça. Quand on les voit vivre, on pense pas, waouh, voilà quelqu'un de stable, d'équilibré, dont on a envie de suivre le modèle. Beaucoup de couples chrétiens ne sont pas équilibrés, beaucoup d'églises ne sont pas équilibrées, et cela vient du fait que, souvent, ces personnes ont embrassé, ça nous est tous arrivé, des enseignements poussés à l'extrême. Les enseignements étaient déséquilibrés, ils engendrent des personnes déséquilibrées, parce que comme pour le corps physique, eh bien on le dit, nous sommes ceux dont nous nous nourrissons, nous sommes ce que nous mangeons. Alors, nous devons trouver notre équilibre sur le chemin étroit et resserré, nous dit l'Écriture, de notre destinée sur lequel nous nous sommes engagés. Nous devons trouver un équilibre parce que Satan nous attend aux deux extrêmes. J'ai l'habitude de le dire, s'il ne peut nous freiner, il va nous pousser. Et on va voir cela plus en détail en précisant au passage, chers amis, que le fait de chercher à être équilibré ne veut pas dire que nous devenons de ce fait tièdes. Mais je reviendrai sur cela. Et Julien me rejoindra tout à l'heure pour partager aussi ce qui est sur son cœur. Quelle joie, oh Seigneur, que de te louer parmi les nations.
Quelle joie, oh Seigneur, que de célébrer. Voilà, maintenant à moi. Alors, si on met tant de importance sur ce sujet de l'équilibre, c'est parce que le diable, il veut prendre des vérités et de les pousser à l'extrême pour qu'ils deviennent des faussetés. Et on voit avec toutes les religions, les philosophies qu'on peut trouver aujourd'hui, que beaucoup de personnes, ils peuvent tomber dans des pièges qui les amènent vers des enseignements néfastes. On peut voir, par exemple, dans le bouddhisme, où eux, ils estiment que la souffrance vient de tous nos désirs qu'on ne peut pas satisfaire. Et donc, leur solution, c'est de supprimer tout désir. On voit de notre côté que dans l'islam, il promet pour les hommes que quand ils arrivent au ciel, eh bien, tout leur désir charnel sera comblé au-delà. Ce n'est pas l'équilibre. Mais en Christ, on voit qu'il nous enseigne qu'on doit retenir, garder tout ce qui est bon et rejeter tout ce qui est mauvais. Alors maintenant, on va parler de Jésus. Jésus qui était pleinement Dieu et pleinement humain. Et l'équilibre qu'il avait trouvé pour vivre ici sur terre parmi nous. On voit qu'il y a des moments où il marche sur l'eau qui révèlent vraiment ça. Divinité et en même temps la nécessité de dormir comme dans la barque ou de manger avec ses amis pour qu'il reprenne la force. Il était autant dans la prière et le jeûne que les moments de convivialité et de jouer avec des enfants et de rire et de pleurer. je crois que la leçon qu'on peut prendre de cela, c'est qu'on doit trouver justement notre propre équilibre, de ne pas essayer de jouer de super spirituel tout le temps et de ne pas vivre non plus que dans le côté matériel ou de faire de soucis tout le temps comme la plupart des êtres humains. Et c'est important aussi de trouver ce juste équilibre dans notre ministère et aussi dans notre vie de tous les jours. Jésus est le Père.
Alors, lorsqu'on parle de déséquilibre, eh bien, on parle d'extrême en général. Alors, ça peut être l'extrême du pas assez, comme l'extrême du trop. En prenant l'exemple de l'argent, pour certaines personnes, il ne faut pas parler d'argent. Et d'autres ne peuvent plus faire une réunion sans faire une offrande ou parler pendant une demi-heure sur l'offrande et sur l'argent. Il y a quand même un équilibre à trouver entre les deux. Nous l'avons dit, si le diable peut nous freiner, de toute façon, il va nous pousser. Donc, il travaille aux deux extrêmes. L'extrême du pas assez est aussi dommageable que l'extrême du trop. Et c'est de cela dont il faut se rappeler, parce que l'adversaire fait en sorte justement d'opposer les extrêmes les uns aux autres. Ceux qui sont dans le pas assez, eh bien, accusent ceux qui sont dans le trop d'en faire trop, et ceux qui sont dans le trop accusent évidemment les autres de ne pas en faire assez. Donc le mieux de toute façon est de ne pas juger les gens, mais de chercher déjà pour sa propre vie à se nourrir d'enseignements équilibrés. Et à partir de là, on va pouvoir aider le plus grand nombre aussi à s'équilibrer à son tour. Alors dans les déséquilibres, les vérités poussées à l'extrême, on trouve des excès justement extrêmes. L'exemple d'une église, pourtant charismatique, composée de gens qui avaient accepté Christ comme sauveur, une église évangélique aux États-Unis, à un moment donné a pris un verset, celui... où Jésus a dit que ceux qui croient en lui saisiront des serpents et ça ne leur fera pas de mal. Alors ils ont pris ce verset, ils l'ont isolé, et une doctrine déséquilibrée provient en général de versets qu'on isole, n'est-ce pas? Rappelez-vous, on ne peut pas bâtir une doctrine sur un verset isolé. Et ils ont commencé à faire une chose qui peut paraître absolument aberrante, mais qui nous fait comprendre jusqu'où on peut aller, même avec l'écriture mal interprétée. Ils ont commencé à lâcher pendant les cultes des serpents. C'est aberrant et pourtant c'est véritable. Et plusieurs d'entre eux, eh bien, essayaient de prouver leur foi et de confirmer l'écriture en saisissant ces serpents. Plusieurs évidemment étaient piqués, plusieurs sont morts. Peut-être qu'on en a déduit que c'était parce qu'ils manquaient de foi. Alors là, nous avons un exemple extrême. Tous les extrêmes ne sont pas aussi extrêmes. Mais nous avons beaucoup de doctrines au milieu de nous qui sont fausses parce que déséquilibrées. Je tiens à vous préciser ici une chose. Les fausses doctrines ne sont pas toujours celles qu'on imagine. Et dans nos milieux évangéliques, il y a beaucoup de choses qu'on reconnaît comme des doctrines justes, qui sont en fait des doctrines fausses, et d'autres qu'on regarde et qu'on déclare être des doctrines fausses, qui en fait sont des doctrines justes. Je peux vous donner juste quelques exemples. À partir du principe que la femme ne peut enseigner, on prend un verset mal interprété, mal traduit, sorti de contexte, et on en fait toute une doctrine pour interdire aux femmes d'exercer le ministère. Et on pense que c'est justement pour être en accord avec la parole de Dieu et pour annoncer une doctrine juste. Mais en fait, lorsqu'on analyse les choses, c'est pourquoi on ne peut pas prendre la parole de Dieu n'importe comment, d'une manière littérale. Lorsqu'on analyse les choses, on se rend compte que c'est ça la fausse doctrine. Empêcher les femmes d'enseigner, alors que le Seigneur a oint des femmes de tout temps pour faire des prodiges, des miracles, amener des âmes au Seigneur, ouvrir des églises, ce qui serait une contradiction à sa propre parole. Or, Dieu ne se contredit pas, c'est nous souvent qui ne comprenons pas ce qu'il dit ou ce qu'il veut dire. Et Nous nous opposons à Dieu lorsque nous empêchons les femmes de se lever pour servir dans l'appel que Dieu leur a adressé, et si c'est un ministère d'enseignement, pour enseigner, oui. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ces mauvaises interprétations de la parole de Dieu qui créent de fausses doctrines qui concernent les femmes. Il semble que le diable ne les aime pas, n'est-ce pas ? Non seulement il veut empêcher qu'elles se lèvent et soient des instruments puissants entre les mains du Seigneur pour annoncer la parole de Dieu, mais il veut aussi qu'elles disparaissent quelque part. Il veut même qu'elles se voilent et qu'on ne les voit plus, hein ? Et c'est pour ça que nous avons aussi cet enseignement bien connu à partir de passages de l'Écriture, du chapitre 11 de 1 Corinthiens, où il semble que l'apôtre Paul dit aux femmes de se voiler. Et beaucoup ont interprété cela comme étant un commandement concernant toutes les femmes, tous les contextes et toutes les époques. Mais c'est là que réside le problème. Vous voyez, beaucoup de fausses doctrines sont bâties à cause du fait qu'on ne prend pas le contexte dans lequel le verset et la parole a été déclarée en considération. Et à l'époque de l'apôtre Paul, dans le monde gréco-romain, c'était une honte pour une femme de ne pas être voilée. Ça faisait partie de la décence. Et une femme qui se promenait justement sans être voilée était automatiquement assimilée à une femme de peu de vertu, parce que c'est ce que faisaient les prostituées. Et donc, il est tout à fait normal que dans ce contexte, l'apôtre Paul dise aux sœurs de ne pas se promener à plus forte raison dans l'église sans avoir un voile sur la tête. Mais vous attribuez cette pratique à notre époque où le voile n'a plus le même sens, sinon dans certains pays, mais certainement pas dans nos pays européens, et ça devient un non-sens. Et à plus forte raison, je vais même plus loin, on en fait un enseignement spirituel qui ne l'est pas. Et tout enseignement prétendu être spirituel qui à sa base ne l'est pas vraiment, ouvre une porte à l'adversaire, mes amis, donne un droit à une puissance de ténèbres. Ça, je vous l'affirme, et c'est pour cela que nous devons faire attention avec ce que nous faisons de l'Écriture. Maintenant, bien sûr, dans un pays comme l'Iran, si nos sœurs sont envoyées comme missionnaires ou accompagnent leur mari dans la mission, eh bien, on leur dira exactement la même chose qu'a dit l'apôtre Paul aux femmes de sa génération. On leur dira de se voiler, parce que dans ces pays, eh bien, c'est la coutume d'être voilé, ne pas être voilé, eh bien, amène une honte sur le message de l'évangile lui-même. Vous comprenez ? Mais il nous faut faire fonctionner notre intelligence, et je reviendrai là-dessus. Et un autre point concernant souvent les épouses, les hommes aussi, mais on se rend compte que ça concerne beaucoup les femmes, eh bien, c'est de prendre les versets que Jésus, les déclarations de Jésus concernant le divorce, dans un contexte où Jésus essayait justement de protéger les femmes, parce que les interprétations des pharisiens concernant le sujet du divorce, eh bien, donnaient tous les droits aux hommes, qui pouvaient se débarrasser de leurs femmes un peu comme ils voulaient, Jésus a donné certains commandements pour protéger justement ces femmes-là. Mais vous amenez ce commandement à notre époque et vous l'attribuez à toutes les situations de divorce, quelles qu'elles soient, et vous commettez d'énormes injustices qui font qu'en fait le commandement qui devait protéger les femmes se retourne contre elles parce que maintenant elles deviennent esclaves, même d'hommes qui les maltraitent, de maris malveillants. On appelle certains des pervers narcissiques, c'est à la mode en ce moment, et on se rend compte qu'il n'y en a peut-être jamais eu autant. Et vous faites dire finalement à la parole de Dieu le contraire de ce qu'elle voulait dire, et vous lui faites produire des fruits d'asservissement, et disons-le de malédiction, là où elle était envoyée pour produire des fruits de bénédiction, puisqu'il est dit qu'il a envoyé à sa parole et les guérit. Lorsque la parole de Dieu est correctement comprise et interprétée avec équilibre, elle va produire la vie. Lorsque ce n'est pas le cas, elle va produire la mort, mais ce n'est pas sa faute parce que ce n'est plus alors la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu poussée à l'extrême, nous l'avons vu, qui devient dans sa pratique une fausseté. Et nous avons beaucoup de ces faussetés qu'on nous présente aujourd'hui comme des vérités. Et dans le chapitre suivant, nous allons voir quelques critères que nous devons prendre en considération lorsque nous interprétons la parole de Dieu pour qu'elle soit en effet ce qu'elle a toujours été supposée être, une parole qui donne la vie.
Nos voix sont allées jusqu'aux extrémités de la terre pour élever et glorifier.
Eh bien, je voudrais partager quelques points, quelques critères que nous devons prendre en considération pour nous permettre d'interpréter convenablement la parole de Dieu, pour qu'elle soit une parole qui communique la vie, une parole qui nous communique l'équilibre. Le premier critère, c'est l'importance de comprendre le cœur du Père. Waouh ! C'est ce que disait d'ailleurs un traducteur. On ne peut bien traduire la parole de Dieu que si on comprend le cœur de son auteur. Donc prendre en considération vraiment qui est Dieu pour interpréter les choses selon son cœur. On a parlé par exemple de l'exemple du divorce. Eh bien, est-ce qu'il est normal d'accuser des gens qui ont déjà été une première fois victimes, souvent, en vivant le divorce, de les mettre au banc, en quelque sorte, de l'Église, d'en faire des chrétiens de seconde catégorie, et en fait de les rendre de seconde fois victimes? Est-ce que ça, ça correspond au cœur de Dieu? Est-ce que ça, ça doit être l'interprétation qu'on doit donner aux paroles de Jésus concernant ce sujet? Le deuxième critère, eh bien, c'est de chercher le milieu de la route. Sachant que le diable nous attend aux deux extrêmes, que nous l'avons mentionné, comprenant cette loi de l'équilibre, avoir de plus en plus ce réflexe de chercher le milieu de la route. Nous nous rendons compte que dans l'écriture même, il y a plusieurs déclarations qui paraissent être contradictoires. Ce que cela nous enseigne, ce n'est pas que Dieu se contredit, loin de là, mais cela nous enseigne que le Seigneur veut qu'on interprète sa parole à la lumière de plusieurs déclarations, de plusieurs versets, afin qu'on trouve l'équilibre, le milieu de la route. Le critère suivant est tout simplement l'intelligence. Waouh ! Dieu nous a donné une intelligence, mes amis. Lorsque nous regardons parfois certaines personnes évoluer sous prétexte de mettre en application la parole de Dieu, on se dit que ce qu'ils en ont tiré ne les rend pas spécialement si intelligents que ça. Il y a un passage merveilleux dans les psaumes qui dit « Ah, tu me donnes l'intelligence des vieillards. La parole de Dieu est là pour nous aider à développer notre réflexion, notre intelligence, qui va nous aider en fait à bien interpréter cette parole. » Parfois, sous prétexte de prendre la parole de Dieu littéralement, de peur de dévier, eh bien, on s'interdit de réfléchir, et de réfléchir suffisamment pour la comprendre. La Bible nous dit que celui qui réfléchit sur les choses, donc qui fait fonctionner son intelligence, trouve le bonheur, c'est-à-dire trouve la vraie interprétation, on pourrait dire, de la parole de Dieu, trouve l'équilibre dont il a besoin. Dans l'intelligence, il ne faut pas hésiter à la faire fonctionner. Et parmi les points que nous avons cités tout à l'heure concernant autant le voile qu'empêcher les femmes de prêcher, que une mauvaise interprétation vis-à-vis du divorce, beaucoup trop légaliste, eh bien, on peut se poser la question, est-ce que ces interprétations légalistes sont le fruit de l'intelligence ou plutôt de la bêtise? Elles sont le résultat d'une manière primaire de raisonner. Beaucoup de gens disent « Ah, mais il faut prendre la parole de Dieu d'une manière littérale. » Non, la Bible nous dit que c'est celui qui réfléchit sur les choses qui trouve le bonheur. La Bible nous dit que c'est la révélation des paroles de Dieu qui éclaire. Et de nombreux versets dans les Proverbes nous disent que c'est celui qui, eh bien, a l'intelligence en partage, on pourrait dire qu'il prend le temps de la faire fonctionner, qui comprend les voies de Dieu. Donc, ne soyons plus que ces chrétiens qui sommes connus comme étant des gens vraiment primaires. Nous devons au contraire faire une démonstration d'intelligence et d'équilibre. J'en suis persuadé, les chrétiens devraient être les gens les plus équilibrés sur cette terre. Il y a un livre qui était paru il y a plusieurs années qui s'appelait les gens les plus heureux sur Terre. Eh bien, nous sommes appelés aussi à être les gens les plus équilibrés sur Terre parce que nous n'hésitons pas à faire fonctionner ce merveilleux don de Dieu, l'intelligence. Et le dernier point, c'est le témoignage de celui qui m'enseigne. Des gens qui veulent m'enseigner la parole de Dieu pour pouvoir me permettre d'évoluer. Quel est leur témoignage? Est-ce qu'ils ont une vie qui prouve que la parole marche pour eux? Et parce que si la parole ne marche pas pour eux, pour commencer, pourquoi est-ce qu'ils veulent, permettez-moi de le dire comme ça, me refiler leur camelote? Et nous avons trop de gens aujourd'hui qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Or, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui vivent ce qu'ils prêchent et qui prêchent ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, plus que jamais. Et pour cela, bien, nous avons besoin, mes amis, de critères pour analyser ce qui nous est enseigné et pour nous-mêmes eh bien chercher à comprendre lorsque nous lisons la Bible ce que Dieu veut vraiment nous dire, comprendre son cœur, faire fonctionner son intelligence, trouver le milieu de la route et choisir les personnes que nous voulons comme modèles parce que nous reconnaissons que la parole qu'ils nous annoncent marche dans leur propre vie, est une démonstration de ce qu'elle les rend meilleurs, équilibrés. Et de ce fait, nous avons envie de marcher sur leurs traces.
Alors, en Matthieu 11, 28, on peut lire « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Comment ça se fait que son fardeau puisse être léger ou qu'un joug puisse être facile à porter? On peut lire en Deutéronome 22, 10, « Tu ne laboreras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. » Pourquoi? Parce qu'il y a ce déséquilibre entre le bœuf et l'âne. Ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas la même force. Et si on essaie de les attacher ensemble pour travailler, eh bien, ils vont finir par se fatiguer et être découragés et s'épuiser. Donc, là encore, on voit l'importance de travailler dans l'équilibre les uns avec les autres si on veut être efficace pour le Seigneur. Claude.
Oui, voilà, nous voulons terminer ce cours, ce partage. Tiens, un dernier verset dans Ecclésiaste 7,16 qui va juste à nous dire « Ne sois pas juste à l'excès ». Alors, il est évident que Dieu ne veut pas nous dire que nous ne devons pas rechercher à être le plus juste possible dans notre comportement, mais que dans cette recherche justement de plaire à Dieu, on peut tomber là aussi dans le déséquilibre et devenir légaliste alors qu'on est en train de chercher à faire bien. Alors peut-être nous aurons l'occasion de développer cela plus en détail dans le prochain cours qui va s'appeler « La lettre qui tue ».
Mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors, c'est vrai, Claude, que en fait, l'équilibre, ce n'est jamais un acquis qu'on garde pour toujours, mais c'est une recherche permanente d'être le plus juste possible dans chaque situation et par la grâce de Dieu, par son Saint-Esprit. On aimerait finir par la prière et nous prions que le Seigneur vous accorde à chacune et à chacun cette sagesse qu'on a tellement besoin pour garder l'équilibre. Merci Seigneur.
Oui, Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur.
Cette sagesse qui vient d'en haut soit notre partage à tous.
Amen.
Nous en avons tellement besoin. Nous la réclamons qu'elle puisse s'exprimer en nous. Et lorsque nous lisons aussi ta parole, que nous puissions la comprendre.
Merci,
et comprendre ton cœur.
Amen.
Vraiment, au nom de Jésus, nous prions.
Merci. Amen.
À bientôt.
Au revoir.